Nissan et Sainte-Foy Nissan.
On le sait, l'hiver s'en vient et l'hiver, ça vous prend un véhicule sécuritaire. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est un véhicule qui nous amène du point A au point B, peu importe la température extérieure. On n'en veut pas de problème. J'ai l'endroit idéal pour vous faire conseiller. Ben, c'est chez Marlin Chevrolet Buick GMC. On a du véhicule neuf comme pas possible dans le cours. Allez faire un tour, vous allez voir. On a un vaste inventaire disponible tout de suite. Donc, vous allez chercher votre véhicule peut-être ce soir pour le magasiner. Ben, il y a des chances que vous partiez avec ce soir. Oui, oui, je vous le dis. On a du véhicule d'occasion aussi pour toutes les bourses. On a des petits VUS, des modèles électriques. On en a en masse. En fait, on a tout ce qu'il vous faut chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Et comme si le prix employé ne suffisait pas, parce qu'on va considérer si Pascal se présente dans le stationnement, qu'elle est une employée, puis on a des deals pour nos employés. Ben, on ajoute à ça un rabais Costco pouvant atteindre 1 200 $ en plus du 0% de financement sur certains modèles. Passez nous voir tout de suite, dès maintenant, chez Marlin Chevrolet Buick GMC ou encore allez consulter notre inventaire chez marlinchevroletbuickgmc.ca.
La météo vous est présentée par WestJet et ses vols directs vers Calgary au départ de Québec. Pour connaître les dates des vols, contactez votre conseiller en voyage ou visitez décollerdequebec.ca.
Marceau, le midi.
All right, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Aujourd'hui, on est très gâtés côté météo. On va atteindre presque 21 là, si Environnement Canada réalise ses promesses. Actuellement, c'est 20, mais d'ici cet après-midi, ça devrait encore monter. Alternance de soleil et nuages. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de pluie, donc généralement nuageux pour ce soir, avec un minimum de 12. Mercredi, demain, ce sera généralement nuageux, avec un 30% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 23 degrés. En soirée, on parle d'un ciel dégagé, donc minimum de 10. Jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. Et vendredi, ensoleillé avec un maximum de 27. Donc, on profite encore des belles températures qu'on connaît ici à Québec. Et là, bon, on va aller voir ce qui se passe en Allemagne, parce qu'on avait la semaine dernière une entrevue avec le chargé de cours au Collège militaire royal du Canada, Frédéric Labarre, qui nous parle d'histoire aussi une fois de temps en temps. Un gars hyper intéressant. Monsieur Labarre, salut! Là, je vous entends plus. Voilà, est-ce que vous êtes là?
Salut!
Voilà, bon, je vous en... Comment ça se passe en Allemagne actuellement? Là? Quel genre de température vous avez?
On a quelque chose comme 27-28 degrés et ce qui se passe en Allemagne, ben il y a un Eurofighter qui est passé au-dessus de mon appartement il y a à peine une heure. Donc, il y a beaucoup de mouvements militaires, même ici.
Vous êtes directement sur la base militaire là-bas? Vous êtes sur une base militaire canadienne, non?
Non, il n'y a plus de base militaire canadienne en Allemagne depuis 1994.
Puis les installations pour nos soldats en Allemagne, c'est quoi?
On n'a pas d'installation pour les soldats canadiens en Allemagne, mais c'est à Baden-Baden, ça. C'est pas du tout où est-ce que je suis en ce moment.
Ah, Baden-Baden, voilà. Hier, le président Donald Trump a accueilli en ses murs, à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky. Visiblement, ça a mieux été que la dernière fois où ils se sont rencontrés. Les deux étaient tout sourire. Volodymyr Zelensky était habillé tout de noir. Il s'était fait, un peu achaler à la première rencontre avec Donald Trump. Puis par la suite, ça a été un peu un dîner de cons devant les caméras avec le vice-président des États-Unis, avec le président des États-Unis qui avait pris Volodymyr Zelensky en lui disant ben il pourrait peut-être déclarer la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça a mieux été. Puis aujourd'hui, ben, on voit un peu plus de positif par rapport à la guerre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.
Oui, il faut être un peu prudent dans notre optimisme. Mettons les choses dans leur contexte et retournons à vendredi dernier lorsque M. Trump a accueilli M. Poutine en Alaska sur une base militaire extrêmement importante, ce qui a permis à M. Poutine d'admirer les installations du 389e escadron de renseignement et aussi les bunkers renforcés pour les F-35 sur cette base-là, entre autres. Mais ce qui était intéressant de voir, c'était le protocole qui était associé à ça et de voir ce qui a été dit à ce moment-là. Surtout au sortir de ce meeting-là qui a été écourté, ce qui me laisse penser que M. Trump n'aime pas quitter Washington trop longtemps, laisser M. Vance ou d'autres sans surveillance. Mais ça, c'est mon impression personnelle. S'il est arrivé en Alaska, c'est Monsieur Poutine est arrivé là. Il est monté à bord de la limousine présidentielle de M. Trump, ce qui ne se fait jamais, ce qui a donc dû être, je veux dire, négocié à l'avance. Donc, j'imagine qu'en ce moment, on est en train de démonter la voiture pour savoir s'il n'y a pas un tracker qui n'a pas été installé ou un micro. Et vous riez, mais moi, je ne ris pas. Ça s'est déjà fait. L'ambassade américaine en Union soviétique a été construite par des soviétiques et était truffée de micros dès qu'elle a été ouverte.
Ah oui.
Absolument. Donc, ce sont des choses qui se font. L'autre chose, on dirait un bris de protocole, mais c'est quelque chose qui a été négocié entre M. Trump et M. Poutine, c'est M. Poutine qui a pris la parole en premier à la fin de tout. Et comme je vous le disais la semaine dernière, il me semblait que les questions de l'Ukraine allaient être discutées de manière oblique. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'était parce que M. Dmitriev, Kirill Dmitriev, qui était le directeur du Fonds souverain excusez-moi, russe, était présent avec M. Lavrov, avec M. Belousov également. Et M. Poutine est arrivé en disant trois choses. Il fallait que, pour qu'il y ait de la paix, il fallait que les sources du conflit, les sources profondes du conflit soient résolues. Ça, c'est très, très ésopien comme terme. Ce que M. Poutine veut dire, c'est « Je veux pas de Zelensky au pouvoir. Je veux mon gars au pouvoir. » Comme, par exemple, j'ai réussi à faire, au bout de 17 ans, avec la Géorgie. J'ai mon équipe au pouvoir en Géorgie. C'est ça que je veux en Ukraine. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser en russe. L'autre chose que M. Poutine a dit, il a célébré les accords économiques ou les discussions commerciales, les échanges en haute technologie et en ressources et en énergie qui avaient eu lieu avec M. Trump à ce moment-là, le 15 août dernier. L'autre chose qui me fait peur, c'est qu'il a fait une référence au Lend-Lease. Le Lend-Lease, c'est un programme américain qui permettait à l'Union soviétique de se procurer de l'armement américain. C'est un programme qui fonctionne, je ne sais pas qui fonctionne toujours, mais la législation pour ce programme-là existe toujours. Donc, pourquoi est-ce que je dis que... Donc, ça amène un petit peu le point que je faisais la semaine dernière, comme quoi la question de l'Ukraine a été discuter peut-être de manière oblique. Durant toute la fin de semaine, ensuite, on a eu des nouvelles qui disaient que ExxonMobil pourrait revenir dans les projets d'extraction pétrolière ou gazière dans les îles Sakhaline, justement, je veux dire, au large de l'est de la Russie. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, il y a peut-être effectivement eu un genre de deal qui a été fait, où est-ce que peut-être les États-Unis auraient l'exclusivité pour exploiter certaines ressources russes, ce qui amènerait des fonds aux Russes en échange de quelque chose d'autre. Et l'échange, c'était, donc toi, tu vas retourner voir Zelensky et tu vas le forcer à accepter certaines choses.
Il sera pas question, M. Laborde, de redonner la Crimée à l'Ukraine. On a probablement négocié certaines villes qui étaient très importantes. Zelensky, on ne sait pas s'il a accepté ou non. Mais de ce que j'entends du côté de votre côté, Frédéric Laborde, c'est que il y a très peu de chances que les trois soient réunis au même endroit parce que ce serait une reconnaissance de Vladimir Poutine comme quoi Zelensky est son égal et c'est ce qu'il ne veut pas, possiblement, s'il veut placer ses propres pions en Ukraine.
Effectivement, donc les discussions qui ont eu lieu, mettons, à Istanbul en juin dernier, ont eu lieu avec des équipes qui étaient en deçà du niveau ministériel. Donc, c'est également un point donc, de négocier d'égal à égal. Ça, c'est une des conditions. Je veux négocier avec quelqu'un qui est mon égal. Je veux que ce soit Donald Trump qui fasse fléchir Zelensky. Donc, vous avez tout à fait raison là-dessus.
J'ai une question par rapport à l'image aussi que ça peut donner, parce que il y a des peuples qui ont été meurtris. Deux facettes qui étaient à la gestion, oui, de l'Ukraine et de la Russie, dans ce cas-ci, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, de les rassembler dans une même pièce aux yeux du peuple, aux yeux des gens qui ont perdu des proches, des personnes qui ont combattu sans même savoir. Ça, je sais que c'est l'aspect émotif, je sais que c'est l'aspect humain, mais il se vaut quand même, non, dans une question d'image?
Absolument, absolument. Et pour l'instant, cette question d'image-là est extrêmement bien gérée. Lorsque M. Poutine, lorsque M. Trump a dit « Je vais entrer en contact avec M. Zelensky, il va venir à Washington lundi et on va en parler. » Ce que M. Trump a dit lors de son point de presse, entre guillemets, vendredi dernier, après avoir rappelé que non, le Kremlin n'avait pas réussi à pénétrer la Maison-Blanche, il n'était pas à la solde de Vladimir Poutine, que ça, c'était des fabulations. Il a pris beaucoup de temps à dire ça. Plus il le disait, plus il se sentait, je le voyais comme complicite. M. Trump a dit « il va falloir que l'Europe aide un petit peu ». Et tout dépend de Zelensky. Si Zelensky refuse, donc ça va être de sa faute si ça continue. Autrement dit, si c'est de sa faute, peut-être que moi, je ne me sentirais plus obligé de l'aider, ce qui ferait l'affaire de Vladimir qui me l'a demandé d'arrêter de l'aider. Au contraire, peut-être que Vladimir Poutine, et c'est pour ça que la question du Lend-Lease me faisait un peu frémir, peut-être que Vladimir Poutine, avec la question de l'échange technologique, peut-être qu'il y aurait peut-être une question d'assouplir les sanctions contre la Russie par les États-Unis pour permettre à la Russie d'obtenir les choses techniques dont elle a besoin pour se réarmer. OK? Donc ça, c'est une chose. Donc, il va falloir que l'Europe aide un petit peu. Tout dépend de Zelensky. Puis, il a promis des conséquences très graves s'il n'y avait pas un cessez-le-feu immédiatement, le 15. Est-ce qu'il y en a eu un cessez-le-feu? Absolument pas.
Et Donald Trump a changé son vocabulaire à cet effet-là, d'ailleurs. Mais ce qui est particulier, c'est que depuis que l'histoire a commencé, Poutine n'a rien perdu, si ce n'est que des effectifs humains ainsi que du matériel militaire. Trump va runner pour avoir son prix Nobel de la paix et Volodymyr Zelensky sera le seul grand perdant à l'aventure, ainsi que les citoyens qui verront leur pays peut-être un peu plus petit dans les prochaines semaines.
C'est effectivement ce qui nous amène au 18 août. Donc là, évidemment, beaucoup de personnes parlaient d'échange de territoire. Okay? Reuters notamment mentionnait ça. Quand on a accusé Trump de ne pas être crédible dans ses menaces de conséquences, Marco Rubio a répondu à MSNBC, ben les sanctions, ils ne fonctionnent pas vraiment, mais les conséquences, c'est que les sanctions vont continuer, puis si vraiment M. Poutine obtempère pas, ben on va en mettre plus. Donc, une énorme contradiction là-dedans. Ce qui ne commettait pas les États-Unis à vraiment aider. Mm-hmm. Mais il était certain déjà, dès le départ, qu'il n'était aucunement question qu'il y ait des échanges de territoire tels que les journaux ou tels que certains médias voulaient le faire véhiculer. Donc, si on revient à ce qui est arrivé hier, on peut procéder par les points qui ont été amenés par les dirigeants de l'Union européenne et par les membres de la coalition qu'il faut noter, qui ne comportait pas le Canada.
Ça semble vous inquiéter, assurément, c'est inquiétant, là?
Ben oui, parce que je pense qu'on avait une occasion de se démarquer, mais de se démarquer des 10 dernières années de nonchalance au point de vue international, ce qui concerne le Canada. Il y a une hypothèse là-dessus, ben il y a deux hypothèses. La première serait que les affaires étrangères n'ont pas été consultées ou n'ont pas été capables d'accorder leur violon assez vite. L'autre hypothèse, c'est que M. Carney ne veut pas provoquer M. Trump alors qu'il a lui-même des négociations extrêmement délicates pour les questions commerciales et les questions de l'Arctique. Mmh. Donc, ça, c'est beaucoup plus probable. M. Zelensky et les sept qui étaient présents à la Maison-Blanche hier sont arrivés avec les points suivants. Tout d'abord, ça prend un cessez-le-feu. Avec ce cessez-le-feu-là, on va discuter. Donc, le meeting d'hier, c'est surtout pour avoir la possibilité d'avoir un meeting trilatéral. Le meeting trilatéral aurait lieu si et seulement si il y a un cessez-le-feu. Monsieur Trump dit, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de cessez-le-feu dans les 5 ou 6 guerres que j'ai réglées durant les 3 derniers mois, ce qui est patentement faux. Il n'a rien réglé. Il a simplement volé le crédit. Il n'y a pas eu de question de cesser le feu, la guerre a juste arrêté. Le danger de dire « la guerre arrête juste là », ça veut dire qu'on gèle, les frontières là où est-ce que les gains militaires ont été acquis et on passe à autre chose. C'est ça le vrai danger. Donc, comme M. Zelensky l'a dit, la Constitution ne me permet pas de transiger des territoires juste comme ça. En fait, il n'y a aucun pays qui le ferait d'ailleurs. L'autre chose que les Européens disent, et je suis plus ou moins d'accord, c'est qu'il faut que les négociations partent à partir de la ligne de contact actuelle. Le danger d'avoir un discours comme celui-là, c'est que ça peut aggraver les combats. L'un côté comme l'autre peut vouloir gagner du terrain pour avoir une meilleure position de négociation.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la ligne actuelle? Parce que là, vous parlez du côté européen, puis c'est sûr que c'est super intéressant parce qu'on a notre côté occidental, mais là, le côté européen, quand vous dites la ligne actuelle ne doit pas changer.
La ligne actuelle, c'est-à-dire les progrès que la Russie a fait à partir non seulement des frontières nationales reconnues de l'Ukraine, mais les progrès qu'ils ont faits à partir des soi-disant républiques de Donetsk et de Lugansk qui ont été annexées illégalement en 2014. OK? Donc, il y a beaucoup plus de territoires qui ont été gagnés par la Russie, qui est occupé par la Russie jusqu'à présent. Il faut que je fasse attention à mes qualificatifs. Excusez-moi, qui a été occupé par la Russie plus que celle qu'elle n'occupait en 2014, entre 2015 et aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc M. Trump veut un deal final, tout de suite comme ça. Les Européens disent, un instant, ça prend un cessez-le-feu tout d'abord. Dès qu'il va y avoir un cessez-le-feu, il va falloir qu'il y ait des discussions au sujet de la nature des territoires. Et là, encore une fois, le message est très ésopien. Les Européens disent ceci, ils disent aucune frontière ne doit être changée de manière violente ou par la force des armes. Ça, je pense que c'est assez logique, ça. Mais en même temps, ils disent la décision territoriale revient aux Ukrainiens, premièrement et finalement. Et ça a été repris par la presse russe. La presse russe qui dit « Ouais, il faudrait bien qu'il y ait un référendum pour discuter du statut final, mais ça ne peut pas se faire si Zelensky est au pouvoir parce que Zelensky est illégitime, blablabla, blablabla. » Et évidemment, ce référendum-là ne devrait pas concerner la République du Donetsk ou la République de Lugansk ou la Crimée parce que ça, c'est déjà décidé. Ce qui est faux, parce que ça n'a pas été reconnu. Autrement dit, là où est-ce qu'on s'avance à partir de maintenant, et l'autre chose, c'est ça prend des garanties de sécurité pour l'Ukraine et aussi pour l'Europe. Et là, ça, j'ai passé ma fin de semaine à me tordre de rire parce que je me suis dit, quel genre de garantie? Ah, ce serait des garanties comme l'OTAN, comme l'article 5 de l'OTAN. Très bien. Comme le mémorandum de Budapest de 1994 qui forçait le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie à intervenir si quelqu'un cherchait des problèmes à l'Ukraine. Il n'y a absolument rien qui a été fait depuis en 2014 à ce sujet-là.
Exact.
Et pourquoi il n'y a rien qui a été fait? Parce que ça faisait l'affaire de ne rien faire. Parce que les gens qui ont pris la Crimée, c'était des petits bonhommes verts. Tout le monde disait que c'était des Russes. Vous et moi, on le savait que c'était des Russes. Mais il n'y avait pas d'écusson à l'épaule. Ça aurait pu très bien être des miliciens privés qui disent, bon, ben on prend la Crimée, et puis il n'y a personne qui n'a rien à dire. Et en fait, l'échappatoire que la Grande-Bretagne aurait pu dire, c'est, ben moi, je suis à la remorque des États-Unis, et l'échappatoire des États-Unis, ça aurait été, ben, on ne sait pas contre qui se tourner parce qu'on ne sait pas c'est qui est en train d'envahir. Et ça fait notre affaire de dire ça. Et quand M. Poutine, qui était effectivement l'envahisseur, a vu que l'Europe et les États-Unis étaient un tic de papier, il a dit, bon, ben là, je vais aller montrer mes écussons quand je vais prendre le Donbass. Parce que j'ai besoin du Donbass pour me rendre, je ne veux pas dépendre juste sur un petit pont.
Exact.
C'est ça qui est arrivé.
Okay,
c'est notre faiblesse qui est arrivée à ce sujet-là. Et donc, là, excusez-moi, les garanties de sécurité, ça va avoir l'air de quoi? Monsieur Starmer a dit, ça va, ou Monsieur Starmer et Monsieur Macron ont dit, ça va prendre une force de réassurance sur place. Et là, on parle de la Grande-Bretagne et de la France qui se sont promis ce que M. Poutine n'acceptera jamais. Et ça aussi, ça a été répété, malgré le fait que M. Trump dit « Oui, finalement, j'ai parlé à Vladimir, puis Vladimir Poutine, il me dit aussi fou que ça puisse paraître, il n'est pas contre l'idée d'avoir des garanties de sécurité, genre article 5. » Ça ne peut pas être vrai.
Ça peut pas être... OK, parfait. Monsieur Labarre, vous êtes du militaire, vous êtes du Collège militaire royal du Canada. Quelles sont vos hypothèses quant à l'avenir de Volodymyr Zelensky une fois que tout ça sera réglé?
Bien, je pense qu'une fois que tout ça va être réglé, il va y avoir des élections en Ukraine, des élections démocratiques, on l'espère. Et là, la question est de savoir, est-ce que les élections vont être manipulées par le Kremlin de sorte à avoir un des leurs? Par exemple, quelqu'un comme M. Petro Poroshenko, qui est toujours en circulation, même si on l'empêche un tout petit peu d'être candidat, pourrait revenir et M. Poroshenko pourrait être un peu plus accueillable par M. Poutine ou son successeur, parce que M. Poutine aussi commence à vieillir un petit peu, n'est-ce pas? Ça, c'est pour l'Ukraine. Et je pense que M. Zelensky va être pas mal content de lâcher le morceau et de quitter cette job-là, parce qu'il doit être assez fatigué.
Et son avenir ne sera probablement pas en Ukraine. Probablement qu'on va le déménager ailleurs dans le monde parce que sa sécurité ne sera pas garantie. Là.
Ça, c'est vrai, mais on pourrait dire la même chose de bien des généraux, de bien des officiels en Russie. N'oublions pas que le russe et l'ukrainien, ça se parle et ça se mélange un tout petit peu. Donc, comme on l'a vu, même les attaques sur les bases aériennes le mois dernier, compte sur le fait que ces gens-là parlent la même langue. Ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que l'ensemble des mesures que l'Europe compte prendre, si ça marche, si M. Poutine dit « OK, j'accepte, on gèle tout ça là, on a un cessez-le-feu, on gèle tout ça là, on a un meeting à trois ou peut-être à quatre, comme M. Macron disait, parce qu'il voudrait avoir l'Union européenne là-dedans, parce que ça la concerne. » À ce moment-là, pour l'instant, tout ce que ça donne, c'est l'équivalent des accords de Minsk de 2015, mais sur stéroïdes. Donc, la Russie a gagné du terrain, le conflit est figé, M. Poutine peut dire « Voyez-vous, j'ai gagné. » Et les installations industrielles qui se trouvent dans le Donbass, là, je peux les distribuer à mes plus fidèles collaborateurs, les oligarques qui ont tellement enduré sous les sanctions, je vais leur donner des petits fiefs.
Okay.
Ça va vouloir dire qu'on va se retrouver comme une situation... l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la seule différence que les États-Unis ne seront plus de notre bord. Et là, on va avoir une division du monde entre deux types de civilisations, une civilisation plutôt autoritaire et une qui est plutôt progressiste. Et ça ne regarde pas très bien pour les progressistes en ce moment.
Non, effectivement. Effectivement.
Et là, le progressiste, je ne voudrais pas m'avancer trop, mais ou devenir polémique, mais le désastre de la droite, qui est forcément extrême droite à cause de la polarisation politique qu'on a presque partout dans le monde, a été causé par la gauche qui est devenue de plus en plus extrême.
Ouais.
OK, il n'y a plus personne dans le milieu. Moi, je fais partie du deep middle. Là. Ce qui est intéressant de voir dans l'échiquier mondial en ce moment, c'est que si, au point de vue militaire, l'Ukraine est coincée entre cette civilisation russe et la civilisation occidentale européenne, au point de vue militaire, M. Trump, lui, est coincé entre M. Poutine et l'Union européenne. Et il ne sait pas comment gérer ça. Il veut faire plaisir à tout le monde parce que c'est ça l'épiphanie que j'ai eue en fin de semaine. M. Trump commet la première erreur que Machiavel a dit ne jamais commettre, essayer de se faire aimer. Il, C'est impossible de le respecter parce qu'il ment tout le temps et ses menaces ne sont pas crédibles, ni ses promesses.
Exact. Monsieur Labarre, c'était tout pour nous, mais un gros merci pour tous ces éclaircissements-là. C'était très clair. Puis on espère vous reparler, Monsieur Frédéric Labarre.
Oui, je ne suis pas arrivé à votre question de la semaine dernière. Qu'est-ce que M. Poutine veut? Hein?
Ben, savez-vous quoi? Ça nous donne une raison peut-être de s'en reparler la semaine prochaine.
Ça me fait un plaisir.
Okay? Au revoir. Merci. L'exceptionnel Frédéric Labarre, qui est chargé de cours au Collège militaire royal du Canada. C'est intéressant.
Absolument. Moi, je trouve que c'est comme un cours, mais un cours positif dans le sens où on n'entend pas souvent ces angles-là.
Puis d'avoir la vision que nous, on a versus la vision de l'Europe aussi, je trouve ça le fun. 1h02, il y a un auditeur qui me disait « Mais dans le fond, Vladimir Poutine, une fois que le conflit sera réglé, il remporte tout. » La réponse, c'est oui.
Ben actuellement, oui. Puis c'est ce qui fait le plus peur, en fait, pour tout le reste de l'humanité, pour la suite dans les négociations géopolitiques qu'on connaît.
All right, courte pause, on vient.